Dorion. Saluant respectueusement de Crite, le dernier des stoïciens. Grave et blanc, il s'élève au milieu de nous comme une image des ancêtres. Il est solitaire dans la foule des hommes et prononce des paroles qui ne sont point entendues. De Crite. Tu te trompes, Dorion. La philosophie de la vertu n'est pas morte en ce monde. J'ai de nombreux disciples dans Alexandrie, dans Rome et dans Constantinople. Plusieurs parmi les esclaves et parmi les neveux des Césars savent encore régner sur eux-mêmes, vivre libres et goûter dans le détachement des choses une félicité sans limite. Plusieurs font revivre en eux Épictète et Marc Aurèle. Mais s'il était vrai que la vertu fut à jamais éteinte sur la terre, en quoi sa perte intéresserait-elle mon bonheur, puisqu'il ne me dépendait pas de moi qu'elle durât ou périt? Les fous seuls, Dorion, placent leur félicité hors de leur pouvoir. Je ne désire rien que ne veuillent les dieux, et je désire tout ce qu'ils veulent. Par là, oh, je me rends semblable à eux, et je partage leur infaillible consentement. Si la vertu périt, je consens qu'elle périsse, et ce contentement me remplit de joie comme le suprême effort de ma raison ou de mon courage. En toute chose, ma sagesse copiera la sagesse divine, et la copie sera plus précieuse que le modèle, elle aura coûté plus de soins et de plus grands travaux. Nicias. J'entends, tu t'associes à la providence céleste, mais si la vertu consiste seulement dans l'effort, Eucrite, et dans cette tension par laquelle les disciples de Zénon prétendent se rendre semblables aux dieux, la grenouille qui s'enfle pour devenir aussi grosse que le bœuf accomplit le chef-d'œuvre du stoïcisme. Eucrite. Nicias, tu railles, et comme à ton ordinaire, tu excelles à te moquer. Mais si le bœuf dont tu parles est vraiment un dieu, comme Apis et comme ce bœuf souterrain dont je vois ici le grand prêtre, et si la grenouille, sagement inspirée, parvient à l'égaler, ne sera-t-elle pas en effet plus vertueuse que le bœuf, et pourras-tu te défendre d'admirer une bestiole si généreuse? 4 serviteurs posèrent sur la table un sanglier couvert encore de ses soies. Des marcassins faits de pâtes cuites au four, entourant la bête comme s'il voulait téter, indiquaient que c'était une laie. Zénothémis, se tournant vers le moine, « Ami, un convive est venu de lui-même se joindre à nous. L'illustre Paphnus, qui mène dans la solitude une vie prodigieuse, est notre hôte inattendu. » Cotta. « Dis mieux, Xénothémis, la première place lui est due, puisqu'il est venu sans être invité. » Xénothémis. « Aussi devons-nous, cher Lucius, l'accueillir avec une particulière amitié et rechercher ce qui peut lui être le plus agréable. Oh, il est certain qu'un tel homme est moins sensible aux fumées des viandes qu'au parfum des belles pensées. » Nous lui ferons plaisir sans doute en amenant l'entretien sur la doctrine qu'il professe et qui est celle de Jésus crucifié. Pour moi, je m'y prêterai d'autant plus volontiers que cette doctrine m'intéresse vivement par le nombre et la diversité des allégories qu'elle renferme. Si l'on devine l'esprit sous la lettre, elle est pleine de vérité et j'estime que les livres des chrétiens abondent en révélations divines. Mais je ne saurais pas venu s'accorder un prix égal au livre des Juifs. Ceux-là furent inspirés, non comme on l'a dit, par l'Esprit de Dieu, mais par un mauvais génie, Yahvé, qui les dicta. Et ce Yahvé est un de ces esprits qui peuplent l'air inférieur et causent la plupart des maux dont nous souffrons. Mais ils les surpassaient tous en ignorance et en férocité. Au contraire, le serpent aux ailes d'or qui déroulait autour de l'arbre de la science sa spirale d'azur était pétri de lumière et d'amour. Aussi, la lutte était-elle inévitable entre ces deux puissances, celle si brillante et l'autre ténébreuse. Elle éclata dans les premiers jours du monde. Dieu venait à peine de rentrer dans son repos. Adam et Ève, le premier homme et la première femme, vivaient heureux et nus au jardin d'Éden, quand Yahvé forma pour leur malheur le dessein de les gouverner, eux et toutes les générations qu'Ève portait déjà dans ses fleurs magnifiques. Comme il ne possédait ni le compas, ni la lyre, et qu'il ignorait également la science qui commande et l'art qui persuade, il effrayait ses deux pauvres enfants par des apparitions difformes, des menaces capricieuses et des coups de tonnerre. Alors Adam et Ève, sentant son ombre sur eux, se pressaient l'un contre l'autre et leur amour redoublait dans la peur. Le serpent eut pitié d'eux et résolut de les instruire afin que, possédant la science, ils ne fussent plus abusés par des mensonges. L'entreprise exigeait une rare prudence et la faiblesse du premier couple humain la rendait presque désespérée. Le bienveillant démon la tenta pourtant. À l'insu de Yahvé, qui prétendait tout voir, mais dont la vue en réalité n'était pas bien perçante, il s'approcha des deux créatures, charma leur regard par la splendeur de sa cuirasse et l'éclat de ses ailes. Puis il intéressa leur esprit en formant devant eux, avec son corps, des figures exactes, telles que le cercle, l'ellipse et la spirale, dont les propriétés admirables ont été reconnues par les Grecs. Adam, mieux qu'Ève, méditait sur ces figures, mais quand le serpent, s'étant mis à parler, enseigna les vérités les plus hautes, celles qui ne se démontrent pas, il reconnut qu'Adam, pétri de terre rouge, était d'une nature trop épaisse pour recevoir ces subtiles connaissances, et que Ève, au contraire, plus tendre et plus sensible, en était aisément pénétré. Aussi l'entretenait-il seul en l'absence de son mari, afin de l'initier la première. Dorion. Ah, souffre, Zelotémis, que je t'arrête ici. J'ai d'abord reconnu dans le mythe que tu nous exposes un épisode de la lutte de Pallas Athénée contre les géants. Yahvé ressemble beaucoup à Typhon et Pallas est représenté par les Athéniens avec un serpent à son côté. Ce que tu viens de dire m'a fait douter tout à coup de l'intelligence ou de la bonne foi du serpent dont tu parles. S'il avait vraiment possédé la sagesse, l'aurait-il confié à une petite tête femelle incapable de la contenir ? Je croirais plutôt qu'il était, comme Yahvé, ignorant et menteur, et qu'il choisit Ève parce qu'elle était facile à séduire et qu'il supposait à Adam plus d'intelligence et de réflexion. Zénotémis. Oh, sage Dorion, que c'est non par la réflexion et l'intelligence, mais bien par le sentiment qu'on atteint les vérités les plus hautes et les plus pures. Aussi les femmes qui, d'ordinaire, sont moins réfléchies, mais plus sensibles que les hommes, s'élèvent-elles plus facilement à la connaissance des choses divines? En elles est le don de prophétie, et ce n'est pas sans raison qu'on représente quelquefois Apollon Citharène et Jésus de Nazareth vêtus comme des femmes d'une robe flottante. Le serpent initiateur fut donc sage, quoi que tu dises, Dorion, en préférant au grossier Adam, pour son œuvre de lumière, cette Ève plus blanche que le lait et que les étoiles. Elle l'écouta docilement et se laissa conduire à l'arbre de la science, dont les rameaux s'élevaient jusqu'au ciel et que l'esprit divin baignait comme une rosée. Cet arbre était couvert de feuilles, qui parlait toutes les langues des hommes futurs et dont les voix unies formaient un concert parfait. Ces bruits abondants donnaient aux initiés qui s'en nourrissaient la connaissance des métaux, des pierres, des plantes, ainsi que des lois physiques et des lois morales. Mais ils étaient de flammes, et ceux qui craignaient la souffrance et la mort n'osaient les porter à leurs lèvres. Or, ayant écouté docilement les leçons du serpent, Ève s'éleva au-dessus des vaines terreurs et désira goûter aux fruits qui donne la connaissance de Dieu. Mais pour Adam, qu'elle aimait, ne lui devint pas inférieure. Elle le prit par la main et le conduisit à l'arbre merveilleux. Là, cueillant une pomme ardente, elle y mordit et l'attendit ensuite à son compagnon. Par malheur, Yahvé, qui se promenait d'aventure dans le jardin, les surprit. Et voyant qu'il devenait savant, il entra dans une effroyable fureur. C'est surtout dans la jalousie qu'il était à craindre. Rassemblant ses forces, il produisit un tel tumulte dans l'air inférieur que ces deux êtres débiles en furent consternés. Le fruit échappa des mains de l'homme, et la femme, s'attachant au cou du malheureux, lui dit « Je veux ignorer et souffrir avec toi. » Yahvé, triomphant, maintint Adam et Ève et toutes leurs semences dans la stupeur et dans l'épouvante. Son art, qui se réduisait à fabriquer de grossiers météores, l'emporta sur la science du serpent, musicien et géomètre. Il enseigna aux hommes l'injustice, l'ignorance et la cruauté, et fit régner le mal sur la terre. Il poursuivit Caïn et ses fils, parce qu'ils étaient industrieux. Il extermina les Philistins, parce qu'ils composaient des poèmes orphiques et des fables comme celles d'Ésope. Il fut l'implacable ennemi de la science et de la beauté, et le genre humain expia pendant de longs siècles, dans le sang et les larmes, la défaite du serpent ailé. Heureusement, il se trouva parmi les Grecs des hommes subtils, tels que Pythagore et Platon, qui retrouvèrent, par la puissance du génie, les figures et les idées que l'ennemi de Yahvé avait tenté vainement d'enseigner à la première femme. L'esprit du serpent était en eux. C'est pourquoi le serpent, comme l'a dit Dorion, est honoré par les Athéniens. Enfin, dans des jours plus récents, parurent sous une forme humaine trois esprits célestes, Jésus de Galilée, Basilide et Valentin, à qui il fut donné de cueillir les fruits les plus éclatants de cet arbre de la science, dont les racines traversent la terre et qui porte sa cime au fait des cieux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour venger les chrétiens à qui l'on impute trop souvent les erreurs des juifs. Dorion. Si je t'ai bien entendu, Zénothémis, trois hommes admirables, Jésus, Basilide et Valentin, ont découvert des secrets qui restaient cachés à Pythagore, à Platon, à tous les philosophes de la Grèce et même au divin Épicure, qui pourtant a franchi l'homme de toutes les vaines terreurs. Tu nous obligeras en nous disant par quels moyens ces trois mortels acquirent des connaissances qui avaient échappé à la méditation des sages. Mais faut-il donc te répéter, Dorion, que la science et la méditation ne sont que les premiers degrés de la connaissance et que l'extase seule conduit aux vérités éternelles? Hermodore. Il est vrai, Zénothémis, l'âme se nourrit d'extase comme la cigale de rosée. Mais, disons mieux encore, l'esprit seul est capable d'un entier ravissement, car l'homme est triple, composé d'un corps matériel, d'une âme plus subtile, mais également matérielle, et d'un esprit incorruptible. Quand, sortant de son corps comme d'un palais rendu subitement au silence et à la solitude, puis, traversant au vol les jardins de son âme, l'esprit se répand en Dieu. Il goûte les délices d'une mort anticipée, ou plutôt de la vie future, car mourir, c'est vivre, et dans cet état qui participe de la pureté divine, il possède à la fois la joie infinie et la science absolue. Il entre dans l'unité qui est tout, il est parfait. Nicias. Cela est admirable, mais à vrai dire, Hermodore, je ne vois pas grande différence entre le tout et le rien. Les mots mêmes me semblent manquer pour faire cette distinction. L'infini ressemble parfaitement au néant. Ils sont tous deux inconcevables. À mon avis, la perfection coûte très cher. On la paie de tout son être, et pour l'obtenir, il faut cesser d'exister. C'est là une disgrâce à laquelle Dieu lui-même n'a pas échappé depuis que les philosophes se sont mis en tête de le perfectionner. Après cela, si nous ne savons pas ce que c'est que de ne pas être, nous ignorons par là même ce que c'est que d'être, nous ne savons rien. On dit qu'il est impossible aux hommes de s'entendre. Je croirais, en dépit du bruit de nos disputes, qu'il leur est au contraire impossible de ne pas tomber finalement d'accord, ensevelis côte à côte sous la main des contradictions qu'ils ont entassées comme Pélion sur Ossa. Cotta. J'aime beaucoup la philosophie et je l'étudie à mes heures de loisir, mais je la comprends bien dans les livres des Cicéron. Allez, esclaves, versez le vin miellé. Callicrate. Voilà une chose singulière. Quand je suis à jeun, je songe au temps où les poètes tragiques s'asseyaient au banquet des bons tyrans et l'eau m'en vient à la bouche. Mais dès que j'ai goûté le vin, opime que tu nous verses abondamment, généreux Lucius, je ne rêve que lutte civile et combats héroïques. Je rougis de vivre en des temps sans gloire, j'invoque la liberté et je répands mon sang en imagination avec les derniers Romains dans les champs de Philippe. Cotta. Au déclin de la République, mes aïeux sont morts avec Brutus pour la liberté. Mais on peut douter si ce qu'ils appelaient la liberté du peuple romain n'était pas en réalité la faculté de le gouverner eux-mêmes. Je ne nie pas que la liberté ne soit pour une nation le premier des biens. Mais plus je vis et plus je me persuade qu'un gouvernement fort peut seul l'assurer aux citoyens. J'ai exercé pendant 40 ans les plus nobles charges de l'État et ma longue expérience m'a enseigné que le peuple est opprimé quand le pouvoir est faible. Aussi, ceux qui, comme la plupart des rhéteurs, s'efforcent d'affaiblir le gouvernement, commettent-ils un crime détestable? Si la volonté d'un seul s'exerce parfois d'une façon funeste, le consentement populaire rend toute résolution impossible. Avant que la majesté de la paix romaine couvrît le monde, les peuples ne furent heureux que sous d'intelligents despotes. Hermodore. Pour moi, Lucius, je pense qu'il n'y a point de bonne forme de gouvernement et qu'on en saurait découvrir puisque les Grecs ingénieux qui conçurent tant de formes heureuses ont cherché celle-là sans pouvoir la trouver. À cet égard, tout espoir nous est désormais interdit. On reconnaît à des signes certains que le monde est prêt de s'abîmer dans l'ignorance et dans la barbarie. Il nous était donné, Lucius, d'assister à l'agonie terrible de la civilisation. De toutes les satisfactions que procurait l'intelligence, la science et la vertu, il ne nous reste plus que la joie cruelle de nous regarder mourir. Cotta. Oh, il est certain, oui, que la faim du peuple et l'audace des barbares sont des fléaux redoutables. Mais avec une bonne flotte, une bonne armée et de bonnes finances. Hermodore. Oh, que sert de se flatter? L'empire expirant offre aux barbares une proie facile. Les cités qu'édifièrent le génie hellénique et la patience latine seront bientôt saccagées par des sauvages ivres. Il n'y aura plus sur la terre ni art ni philosophie. Les images des dieux seront renversées dans les temples et dans les âmes. Ce sera la nuit de l'esprit et la mort du monde. Comment croire en effet que les Sarmates se livreront jamais aux travaux de l'intelligence, que les Germains cultiveront la musique et la philosophie, et que les Quades et les Marcomans adoreront les dieux immortels? Non, tout penche et s'abîme. Cette vieille Égypte qui a été le berceau du monde en sera l'hypogée. Sérapis, dieu de la mort, recevra les suprêmes adorations des mortels. J'aurai été le dernier prêtre du dernier dieu. À ce moment, une figure étrange souleva la tapisserie et les convives virent devant eux un petit homme bossu dont le crâne chauve s'élevait en pointe. Il était vêtu à la mode asiatique d'une tunique d'azur et portait autour des jambes, comme les barbares, des braies rouges semées d'étoiles d'or. En le voyant, Paphnutius reconnut Marcus Larrien, et craignant de voir tomber la foudre, il porta ses mains au-dessus de sa tête et pâlit d'épouvante. Ce que n'avaient pu dans ce banquet des démons, ni les blasphèmes des païens, ni les erreurs horribles des philosophes, la seule présence de l'hérétique étonna son courage, et il voulut fuir, mais son regard, ayant rencontré celui de Thaïs, il se sentit soudain rassuré. Il avait lu dans l'âme de la prédestinée et compris que c'était elle qui allait devenir une sainte et qu'elle le protégeait déjà. Il saisit un pan de la robe qu'elle laissait traîner sur le lit et pria mentalement le Sauveur Jésus. Un murmure flatteur avait accueilli la venue du personnage qu'on nommait le Platon des chrétiens. Hermador, lui, parla le premier. « Très illustre Marcus, nous nous réjouissons tous de te voir parmi nous et l'on peut dire que tu viens à propos. Nous ne connaissons de la doctrine des chrétiens que ce qui en est publiquement enseigné. Or, il est certain qu'un philosophe tel que toi ne peut penser que ce que pense le vulgaire, et nous sommes curieux de savoir ton opinion sur les principaux mystères de la religion que tu professes. Notre cher Zénothémis, qui, tu le sais, est avide de symboles, interrogeait tout à l'heure l'illustre Paphnutius sur le livre des Juifs. Mais Paphnutius ne lui a point fait de réponse, et nous ne devons pas en être surpris, puisque notre hôte est voué au silence et que le Dieu a scellé sa langue dans le désert. Mais toi, Marcus, qui as porté la parole dans les synodes des chrétiens et jusque dans les conseils du divin Constantin, tu pourras, si tu veux, satisfaire notre curiosité en nous révélant les vérités philosophiques qui sont enveloppées dans les fables des chrétiens. La première de ces vérités n'est-elle pas l'existence de ce Dieu unique auquel, pour ma part, je crois fermement? Marcus. Oui, vénérable frère, je crois en un seul Dieu, non engendré, seul, éternel, principe de toute chose. Nicias. Oh, nous savons, Marcus, que ton Dieu a créé le monde. Oh, ce fut certes une grande crise dans son existence. Il existait déjà depuis une éternité avant d'avoir pu s'y résoudre. Mais, pour être juste, je reconnais que sa situation était des plus embarrassantes. Il lui fallait demeurer inactif pour rester parfait, et il devait agir s'il voulait se prouver à lui-même sa propre existence. Tu m'assures qu'il s'est décidé à agir. Je veux te croire, bien que ce soit de la part d'un Dieu parfait, une impardonnable imprudence. Mais dis-nous, Marcus, comment il s'y est pris pour créer le monde? Marcus. Ceux qui, sans être chrétiens, possèdent comme Hermodor et Zénothémis les principes de la connaissance, savent que Dieu n'a pas créé le monde directement et sans intermédiaire. Il a donné naissance à un Fils unique par qui toutes choses ont été faites. Dieu dit vrai, Marcus, et ce Fils est indifféremment adoré sous les noms d'Hermès, de Mitra, d'Adonis, d'Apollon et de Jésus. Oh, dit Marcus, je ne serais point chrétien si je lui donnais d'autres noms que ceux de Jésus, de Christ et de Sauveur. Il est le vrai Fils de Dieu, mais il n'est pas éternel, puisqu'il a eu un commencement. Quand t'as pensé qu'il existait avant d'être engendré? C'est une absurdité qu'il faut laisser aux mulets de Nicée et à l'âne rétif, qui gouverna trop longtemps l'église d'Alexandrie sous le nom maudit d'Athanase. À ces mots, Paphnus, blême et le front baigné d'une sueur d'agonie, fit le signe de la croix et persévéra dans son silence sublime. Marcus poursuivit. Il est clair que l'inepte symbole de Nicée attente à la majesté du Dieu unique, en l'obligeant à partager ses invisibles attributs avec sa propre émanation, le médiateur par qui toutes choses furent faites. Renonce à railler le Dieu vrai des chrétiens, Nicias. Sache que pas plus que les lys des champs, il ne travaille ni ne file. L'ouvrier, ce n'est pas lui, c'est son fils unique, c'est Jésus, qui, ayant créé le monde, vint ensuite réparer son ouvrage. Car la création ne pouvait être parfaite et le mal y était mêlé, nécessairement, au bien. Nicias, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal ? Il y eut un moment de silence, pendant lequel Hermodor, le bras étendu sur la nappe, montra un petit âne en métal de Corinthe qui portait deux paniers contenant l'un des olives blanches, l'autre des olives noires. « Voyez ces olives, dit-il. Notre regard est agréablement flatté par le contraste de leur teinte et nous sommes satisfaits que celle-ci soit claire et celle-là sombre. Mais si elles étaient douées de pensée et de connaissance, les blanches diraient « Il est bien qu'une olive soit blanche, il est mal qu'elle soit noire. » Et le peuple des olives noires détesterait le peuple des olives blanches. Nous en jugeons mieux, car nous sommes autant au-dessus d'elles que les dieux sont au-dessus de nous. Pour l'homme qui ne voit qu'une partie des choses, le mal est un mal. Mais pour Dieu qui comprend tout, le mal est un bien. Sans doute la laideur est laide et non pas belle. Mais si tout était beau, le tout ne serait pas beau. Il est donc bien qu'il y ait du mal, ainsi que l'a démontré le second Platon, plus grand que le premier. Eucrite. Nous parlons plus vertueusement. Le mal est un mal, non pour le monde dont il ne détruit pas l'inextrimable harmonie, mais pour le méchant qui le fait et qui pouvait ne pas le faire. Par Jupiter, voilà un bon raisonnement. Mais le monde est la tragédie d'un excellent poète. Dieu qui la composa a désigné de nous pour y jouer un rôle. S'il veut que tout soit mendiant, prince ou boiteux, fais de ton mieux le personnage qui t'a été assigné. Nicias. Ah, assurément, il sera bon que le boiteux de la tragédie boite comme l'Héphaïstos. Il sera bon que l'insensé s'abandonne aux fleurs fureurs d'Ajax, que la femme incestueuse renouvelle les crimes de Phèdre, que le traître trahisse, que le fourbe mente, que le meurtrier tue, et quand la pièce sera jouée, tous les acteurs, rois justes, tyrans sanguinaires, vierges pieuses, épouses impudiques, citoyens magnanimes et lâches assassins, recevront du poète une part égale de félicitations. Eucrite. Oh, tu dénatures ma pensée, Nicias, et change une belle jeune fille en gorgone hideuse. Je te plains d'ignorer la nature des dieux, la justice et les lois éternelles. Zénothémis. Mais pour moi, mes amis, je crois à la réalité du bien et du mal, mais je suis persuadé qu'il n'est pas une seule action humaine, fût-ce le baiser de Judas, qui ne porte en elle un germe de rédemption. Le mal concourt au salut final des hommes, et en cela il procède du bien et participe des mérites attachés au bien. C'est ce que les chrétiens ont admirablement exprimé par le mythe de cet homme au poil roux qui, pour trahir son maître, lui donna le baiser de paix et assura par un tel acte le salut des hommes. Aussi, rien n'est-il à mon sens plus injuste et plus vain que la haine dont certains disciples de Paul le tapissier poursuivent le plus malheureux des apôtres de Jésus sans songer que le baiser de l'Iscariote annoncé par Jésus lui-même était nécessaire selon leur propre doctrine à la rédemption des hommes et que si Judas n'avait pas reçu la bourse de 30 sicles, la sagesse divine était démentie, la providence déçue, ses desseins renversés, le monde rendu au mal, à l'ignorance et à la mort. Marcus. La sagesse divine avait prévu que Judas, libre de ne pas donner le baiser du traître, le donnerait pourtant. C'est ainsi qu'elle a employé le crime de l'Iscariote comme une pierre dans l'édifice merveilleux de la rédemption. Zénothémis. Je t'ai parlé tout à l'heure, Marcus, comme si je croyais que la rédemption des hommes avait été accomplie par Jésus crucifié, parce que je sais que telle est la croyance des chrétiens, et que j'entrais dans leurs pensées pour mieux saisir le défaut de ceux qui croient à la damnation éternelle de Judas. Mais en réalité, Jésus n'est à mes yeux que le précurseur de Basilide et de Valentin. Quant au mystère de la rédemption, je vous dirai, chers amis, pour peu que vous soyez curieux de l'entendre, comment il s'est véritablement accompli sur la terre. Les convives firent un signe d'assentiment. Semblable aux vierges athéniennes avec les corbeilles sacrées de Cérès, 12 jeunes filles, portant sur leur tête des paniers de grenades et de pommes, entrèrent dans la salle d'un pas léger, dont la cadence était marquée par une flûte invisible. Elles posèrent les paniers sur la table, la flûte se tut, et Zénothémis parla de la sorte. Quand Noïa, la pensée de Dieu, eut créé le monde, elle confia aux anges le gouvernement de la terre. Mais ceux-ci ne gardèrent point la sérénité qui convient au maître. Voyant que les filles des hommes étaient belles, ils les surprirent le soir au bord des citernes et ils s'unirent à elles. De ces hymens sortit une race violente, qui couvrit la terre d'injustice et de cruauté, et la poussière des chemins but le sang innocent. Or à cette vue, Enoïa fut prise d'une tristesse infinie. « Voilà donc ce que j'ai fait, soupira-t-elle en se penchant vers le monde. Mes enfants sont plongés par ma faute dans la vie amère. Leur souffrance est mon crime et je veux l'expier. » Dieu même qui ne pense que par serait impuissant à leur rendre la pureté première. Ce qui est fait, fait, et la création est à jamais manquée. Du moins, je n'abandonnerai pas mes créatures. Si je ne puis les rendre heureuses comme moi, je peux me rendre malheureuse comme elles. Puisque j'ai commis la faute de leur donner des corps qui les humilient, je prendrai moi-même un corps semblable au leur et j'irai vivre parmi elles. Ayant ainsi parlé, Enoïa descendit sur la terre et s'incarna dans le sein d'une tindaride. Elle naquit petite et débile et reçut le nom d'Hélène. Soumise aux travaux de la vie, elle grandit bientôt en grâce et en beauté et devint la plus désirée des femmes, comme elle l'avait résolu, afin d'être éprouvée dans son corps mortel par les plus illustres souillures. Proie inerte des hommes lascifs et violents, elle se dévoua au rapt et à l'adultère en expiation de tous les adultères, de toutes les violences, de toutes les iniquités, et causa par sa beauté la ruine des peuples pour que Dieu pût pardonner les crimes de l'univers. Et jamais la pensée céleste, jamais Enoïa ne fut si adorable qu'au jour où, femme, elle se prostituait aux héros et aux bergers. Les poètes devinaient sa divinité quand il la peignait si paisible, si superbe et si fatale, et lorsqu'il lui faisait cette invocation, âme sereine comme le calme des mers. C'est ainsi que Noya fut entraîné par la pitié dans le mal et dans la souffrance. Elle mourut, et les lacédémoniens montrent son tombeau, car elle devait connaître la mort après la volupté et goûter tous les fruits amers qu'elle avait semés. Mais, s'échappant de la chair décomposée d'Hélène, elle s'incarna dans une autre forme de femme et s'offrit de nouveau à tous les outrages. Ainsi, passant de corps en corps et traversant parmi nous les âges mauvais, elle prend sur elle les péchés du monde. Son sacrifice ne sera point vain. Attachée à nous par les liens de la chair, aimant et pleurant qu'avec nous, elle opérera sa rédemption et la nôtre, et nous ravira, suspendue à sa blanche poitrine, dans la paix du ciel reconquis. Hermodor. Ce mythe ne m'était point inconnu. Il me souvient qu'on a conté qu'en une de ces métamorphoses, cette divine Hélène vivait auprès du magicien Simon sous Tibère empereur. Je croyais toutefois que sa déchéance était involontaire et que les anges l'avaient entraînée dans leur chute. Zénothémis. Hermodor, oui, il est vrai que des hommes mal initiés au mystère ont pensé que la triste Noya n'avait pas consenti sa propre déchéance. Mais, s'il en était ainsi qu'ils prétendent, Noya ne serait pas la courtisane expiatrice, l'hostie couverte de toutes les macules, le pain imbibé du vin de nos hontes, l'offrande agréable, sacrifice méritoire, l'holocauste dont la fumée monte vers Dieu. S'il n'était point volontaire, ses péchés n'auraient point de vertu. Callicrate. Mais veux-tu que je t'apprenne, Zénothémis, dans quel pays, sous quel nom, en quelle forme adorable vit aujourd'hui cette Hélène, toujours renaissante? Zénothémis. Oh, il faut être très sage pour découvrir un tel secret. Et la sagesse, Callicrate, n'est pas donnée aux poètes qui vivent dans le monde grossier des formes et s'amusent comme les enfants avec des sons et de vaines images. Callicrate. Ah, crains d'offenser les dieux, impie Zénothémis. Les poètes leur sont chers. Les premières lois furent dictées en vers par les immortels eux-mêmes. Et les oracles des dieux sont des poèmes. Les hymnes ont pour les oreilles célestes d'agréables sons. Qui ne sait que les poètes sont des devins et que rien ne leur est caché? Étant poète moi-même et saint du laurier d'Apollon, je révélerai à tous la dernière incarnation de Noya. L'éternelle Hélène est près de vous. Elle nous regarde et nous la regardons. Voyez cette femme accoudée au coussin de son lit, si belle et toute songeuse, et dont les yeux ont des larmes, les lèvres des baisers. C'est elle, charmante comme au jour de Priam et de l'Asie en fleurs. Noya se nomme aujourd'hui Thaïs. Philina. Que dis-tu, Callicrate? Notre chère Thaïs aurait connu Paris, Ménélas et les Achéens au bel Cnémide, qui combattait devant Ilion. Était-il grand Thaïs, le cheval de Troie? Aristobule, qui parle d'un cheval? Bon, j'ai bu comme un thrace, s'écria Chéréas, et il roula sous la table. Callicrate, élevant sa coupe, je bois aux muses héliconiennes qui m'ont promis une mémoire que n'obscurcira jamais l'aile sombre de la nuit fatale. Le vieux Cotta dormait, et sa tête chauve se balançait lentement sur ses larges épaules. Depuis quelque temps, Dorion s'agitait dans son manteau philosophique. Il s'approcha en chancelant du lit de Thaïs. « Thaïs, je t'aime, bien qu'il soit indigne de moi d'aimer une femme. Et pourquoi ne m'aimais-tu pas tout à l'heure ?»« Ben, parce que j'étais à jeun. » « Mais moi, mon pauvre ami, qui n'ai bu que de l'eau, souffre que je ne t'aime pas. » Dorion n'en voulut pas entendre davantage et se glissa auprès de Drosée, qui l'appelait du regard pour l'enlever à son ami. Zénothémis, prenant la place quittée, donna à Thaïs un baiser sur la bouche. « Thaïs, oh, je te croyais plus vertueux. » Zénothémis. « Bon, je suis parfait, les parfaits ne sont tenus à aucune loi. Mais ne crains-tu pas de souiller ton âme dans les bras d'une femme ?»« Le corps, pour céder au désir, il peut le céder sans que l'âme en soit occupée. »« Va-t'en, je veux qu'on m'aime de corps et d'âme. Tous ces philosophes sont des boucs. » Les lampes s'éteignaient une à une. Un jour pâle, qui pénétrait par les fentes des tentures, frappait les visages livides et les yeux gonflés des convives. Aristobule, tombé les poings fermes à côté de Chéréas, envoyait en songe ses palefreniers tourner la meule. Zénothémis pressait dans ses bras Philina défaite. Dorion versait sur la gorge nue de Drosée des gouttes de vin qui roulaient comme des rubis de la blanche poitrine agitée par le rire et que le philosophe poursuivait avec ses lèvres pour les boire sur la chair glissante. Eucrite se leva, et posant le bras sur l'épaule de Nicias, il l'entraîna au fond de la salle. « Ami, lui dit-il en souriant, si tu penses encore, à quoi penses-tu ? Bon, je pense que les amours des femmes sont semblables au jardin d'Adonis. Que veux-tu dire ? Mais ne sais-tu pas, Eucrite, que les femmes font chaque année de petits jardins sur leurs terrasses, en plantant pour l'amant de Vénus des rameaux dans des vases d'argile ? Ces rameaux verdoient peu de temps et se fanent. Ah oui, oui, n'ayons donc souci ni de ses amours, ni de ses jardins. C'est folie de s'attacher à ce qui passe. Ah, si la beauté n'est qu'une ombre, le désir n'est qu'un éclair. Quelle folie a-t-il à désirer la beauté ? N'est-il pas raisonnable au contraire que ce qui passe aille à ce qui ne dure pas et que l'éclair dévore l'ombre glissante ? Nicias, tu me sembles un enfant qui joue aux osselets. Crois-moi, sois libre. C'est par là qu'on est homme. Mais comment peut-on être libre, Crite, quand on a un corps ? Tu le verras tout à l'heure, mon fils. Tout à l'heure, tu diras, Crite était libre. Le vieillard parlait adossé à une colonne de porphyre, le front éclairé par les premiers rayons de l'aube. Hermodor et Marcus, s'étant approchés, se tenaient devant lui, à côté de Nicias, et tous quatre, indifférents au rire et aux cris des buveurs, s'entretenaient des choses divines. Eucrite s'exprimait avec tant de sagesse que Marcus lui dit tu es digne de connaître le vrai Dieu. » Eucrite répondit « Le vrai Dieu est dans le cœur du sage. » Puis ils parlèrent de la mort. « Je veux, dit Eucrite, qu'elle me trouve occupé à me corriger moi-même et attentif à tous mes devoirs. Devant elle, je lèverai au ciel mes mains pures et je dirai au Dieu Vos images, Dieu, que vous avez posées dans le temple de mon âme, je ne les ai point souillées. J'y ai suspendu mes pensées, ainsi que des guirlandes, des bandelettes et des couronnes. J'ai vécu en conformité avec votre providence. J'ai assez vécu. En parlant ainsi, il levait les bras au ciel et son visage resplendissait de lumière. Il resta pensif un instant. Puis il reprit avec une allégresse profonde « Détache-toi de la vie, Eucrite, comme l'olive mûre qui tombe en rendant grâce à l'arbre qui l'a porté et en bénissant la terre sa nourrice. » Et à ces mots, tirant d'un pli de sa robe un poignard nu, il le plongea dans sa poitrine. Quand ceux qui l'écoutaient saisirent ensemble son bras, la pointe du fer avait pénétré dans le cœur du sage. Eucrite était entré dans le repos. Hermodore et Nicias portèrent le corps pâle et sanglant sur un des lits du festin, au milieu des cris aigus des femmes, des grognements des convives dérangés dans leur assoupissement et des souffles de volupté étouffés dans l'ombre des tapis. Le vieux Cotta, réveillé de son léger sommeil de soldat, était déjà auprès du cadavre, examinant la plaie et criant « Mais qu'on appelle mon médecin Aristée !» Nicias secoua la tête. « Oh non, Eurycrite n'est plus, dit-il. Il a voulu mourir comme d'autres veulent aimer. Il a, comme nous tous, obéi à l'ineffable désir. Et le voilà maintenant semblable au Dieu qui ne désire rien. » Cotta se frappait le front. « Mourir, vouloir mourir, quand on peut encore servir l'État, mais quelle aberration !» Cependant, Paphnus et Thaïs étaient restés immobiles, muets, côte à côte, l'âme débordant de dégoût, d'horreur et d'espérance. Tout à coup, le moine saisit par la main la comédienne, enjamba avec elle les ivrognes abattus près des êtres accouplés, et les pieds dans le vin et le sang répandu, il l'entraîna dehors. Le jour se levait rose sur la ville. Les longues colonnades s'étendaient des deux côtés de la voie solitaire, dominées au loin par le fait étincelant du tombeau d'Alexandre. Sur les dalles de la chaussée traînaient çà et là des couronnes effeuillées, des torches éteintes. On sentait dans l'air les souffles frais de la mer. Paphnus arracha avec dégoût sa robe somptueuse et enfoula les lambeaux sous ses pieds. « Tu les as entendus, ma Thaïs, s'écria-t-il. Ils ont craché toutes les folies et toutes les abominations. Ils ont traité le divin créateur de toutes choses aux gémonies, des démons de l'enfer, nié impudemment le bien et le mal, blasphémé Jésus et vanté Judas. Et le plus infâme de tous, le chacal des ténèbres, la bête puante, l'arien plein de corruption et de mort, a ouvert la bouche comme un sépulcre. Ma Thaïs, tu les as vus ramper vers toi, ces limaces immondes, et te souiller de leur sueur gluante. Tu les as vus, ces brutes endormies sous les talons des esclaves. Tu les as vus, ces bêtes accouplées sur les tapis souillés de leur vomissement. Tu l'as vu, ce vieillard insensé, répandre un sang plus vil que le vin répandu dans la débauche et se jeter au sortir de l'orgie à la face du Christ inattendu. Louange à Dieu, tu as regardé l'erreur et tu as connu qu'elle était hideuse. Thaïs, Thaïs, Thaïs! Rappelle-toi les folies de ces philosophes et dis si tu veux délirer avec eux. Rappelle-toi les regards, les gestes, les rires de leur digne compagne, ces deux guenons lascives et malicieuses, et dis si tu veux rester semblable à elles. Thaïs, le cœur soulevé des dégoûts de cette nuit, et ressentant l'indifférence et la brutalité des hommes, la méchanceté des femmes, le poids des heures, soupirait. Je suis fatigué à mourir, ô mon père. Où trouver le repos? Je me sens le front brûlant, la tête vide, et les bras si las que je n'aurais pas la force de saisir le bonheur si l'on venait le tendre à portée de ma main. Baphnus la regardait avec bonté. Courage, ô ma sœur, l'heure du repos se lève pour toi, blanche et pure comme ces vapeurs que tu vois monter des jardins et des eaux. Ils approchaient de la maison de Thaïs et voyaient déjà, au-dessus du mur, les têtes des platanes et des térébintes qui entouraient la grotte des nymphes, frissonnaient dans la rosée au souffle du matin. Une place publique était devant eux, déserte, entourée de stèles et de statues votives, et portant à ses extrémités des bancs de marbre en hémicycle et que soutenaient des chimères. Thaïs se laissa tomber sur un de ces bancs. Puis, élevant vers le moine un regard anxieux, elle demanda « Que faut-il faire ?»« Il faut, » répondit le moine, « suivre celui qui est venu te chercher. Il te détache du siècle comme le vendangeur cueille la grappe qui pourrirait sur l'arbre et la porte au pressoir pour la changer en vin parfumé. Écoute, il est à 12 heures d'Alexandrie vers l'Occident, non loin de la mer, un monastère de femmes dont la règle, chef-d'œuvre de sagesse, mériterait d'être mise en vers lyrique et chantée au son du théorbe des tambourins. On peut dire justement que les femmes qui sont soumises, posant les pieds à terre, ont le front dans le ciel. Elles mènent dans ce monde la vie des anges. Elles veulent être pauvres afin que Jésus les aime, modestes afin qu'il les regarde, chastes afin qu'il les épouse. Il les visite chaque jour en habit de jardinier. Les pieds nus, ses belles mains ouvertes, est-elle enfin qu'il se montra à Marie sur la voie du tombeau. Or, je te conduirai aujourd'hui même dans ce monastère, ma Thaïs, et bientôt, unie à ces saintes filles, tu partageras leurs célestes entretiens. Elles t'attendent comme une sœur. Au seuil du couvent, leur mère, la pieuse Albine, te donnera le baiser de paix et dira « Ma fille, sois la bienvenue !» La courtisane poussa un cri d'admiration. « Albine ! Oh, une fille des Césars ! La petite nièce de l'empereur Carus !» Elle-même, oui, Albine, qui née dans la pourpre, revêtit la bure et, fille des maîtres du monde, s'éleva au rang de servante de Jésus-Christ. Elle sera ta mère. Thaïs se leva et dit, « Mène-moi donc à la maison d'Albine. » Et Paphnus, achevant sa victoire, « Certes, je t'y conduirai, et là, je t'enfermerai dans une cellule où tu pleureras tes péchés. Car il ne convient pas que tu te mêles aux filles d'Albine, avant d'être lavé de toutes tes souillures. Je scellerai ta porte, et, bienheureuse prisonnière, tu attendras dans les larmes que Jésus lui-même vienne en signe de pardon rompre le sceau que j'aurai mis. N'en doute pas, il viendra, Thaïs. Et quel tressaillement agitera la chair de ton âme quand tu sentiras des doigts de lumière se poser sur tes yeux pour en essuyer les pleurs. Thaïs dit pour la seconde fois, « Mène-moi, mon père, à la maison d'Albine. » Le cœur inondé de joie, Paphnus promena ses regards autour de lui et goûta, presque sans crainte, le plaisir de contempler les choses créées. Ses yeux buvaient délicieusement la lumière de Dieu et des souffles inconnus passaient sur son front. Tout à coup, reconnaissant à l'un des angles de la place publique la petite porte par laquelle on entrait dans la maison de Thaïs, et songeant que les beaux arbres dont il admirait les cimes ombrageaient les jardins de la courtisane, il vit en pensée les impuretés qui avaient souillé l'air, aujourd'hui si léger et si pur. Et son âme en fut soudain si désolée qu'une rosée amère jaillit de ses yeux. Thaïs, dit-il, nous allons fuir sans tourner la tête. Mais nous ne laisserons pas derrière nous les instruments, les témoins, les complices de tes crimes passés, ces tentures épaisses, ces lits, ces tapis, ces urnes de parfum, ces lampes qui crieraient ton infamie. Veux-tu qu'animés par des démons, emportés par l'esprit maudit qui est en eux, ces meubles criminels courent après toi jusque dans le désert? Il n'est que trop vrai qu'on voit des tables de scandale, des sièges infâmes, servir d'organes au diable, agir, parler, frapper le sol et traverser les airs. Périsse tout ce qui vit ta honte. Hâte-toi, Thaïs. Et tandis que la ville est encore endormie, ordonne à tes esclaves de dresser au milieu de cette place un bûcher sur lequel nous brûlerons tout ce que ta demeure contient de richesses abominables. Thaïs y consentit. Fais ce que tu veux, mon père, dit-elle. Je sais que les objets inanimés servent parfois de séjour aux esprits. La nuit, certains meubles parlent, soit en frappant des coups à intervalles réguliers, soit en jetant des petites lueurs semblables à des signaux. Mais cela n'est rien encore. N'as-tu pas remarqué, mon père, en entrant dans la grotte des nymphes, à droite, une statue de femme nue et prête à se baigner? Un jour, j'ai vu de mes yeux cette statue tourner la tête comme une personne vivante et reprendre aussitôt son attitude ordinaire. Oh, j'en ai été glacé d'épouvante. Nicias, à qui j'avais conté ce prodige, s'est moqué de moi. Pourtant, il y a quelque magie en cette statue, car elle inspira de violents désirs à un certain dalmate que ma beauté laissait insensible. Il est certain que j'ai vécu parmi les choses enchantées et que j'étais exposé au plus grand péril, car on a vu des hommes étouffés par l'embrassement d'une statue d'airain. Pourtant, il est regrettable de détruire des ouvrages précieux, faits avec une rare industrie, et si l'on brûle mes tapis et mes tentures, ce sera une grande perte. Il y en a dont la beauté des couleurs est vraiment admirable, et qui ont coûté très cher à ceux qui me les ont donnés. Je possède également des coupes, des statues et des tableaux dont le prix est grand. Je ne crois pas qu'il faille les faire périr. Mais toi qui sais ce qui est nécessaire, Fais ce que tu veux, mon père. En parlant ainsi, elle suivit le moine jusqu'à la petite porte où tant de guirlandes et de couronnes avaient été suspendues. Et, l'ayant fait ouvrir, elle dit au portier d'appeler tous les esclaves de la maison. 4 Indiens, gouverneurs des cuisines, parurent les premiers. Ils avaient tous les 4 la peau jaune et tous les 4 étaient borgnes. Ça avait été pour Thaïs un grand travail et un grand amusement de réunir ces 4 esclaves de même race et atteints de la même infirmité. Quand ils servaient à table, ils excitaient la curiosité des convives et Thaïs les forçait à conter leur histoire. Ils attendirent en silence. Leurs aides les suivaient. Puis vinrent les valets d'écurie, les veneurs, les porteurs de litières et les courriers aux jarrets de bronze, 2 jardiniers velus comme des priapes, 6 nègres d'un aspect féroce, 3 esclaves grecs, l'un grammairien, l'autre poète et le troisième chanteur. Ils s'étaient tous rangés en ordre sur la place publique, quand accoururent les négresses curieuses, inquiètes, roulant de gros yeux ronds, la bouche fendue jusqu'aux anneaux de leurs oreilles. Enfin, rajustant leurs voiles et traînant languissamment leurs pieds, qu'entravaient de minces chaînettes d'or, parurent l'Hermosa de 6 belles esclaves blanches. Quand ils furent tous réunis, Thaïs leur dit en montrant Paphnus, « Faites ce que cet homme va vous ordonner, car l'Esprit de Dieu est en lui, et si vous lui désobéissiez, vous tomberiez mort. » Elle croyait en effet, pour l'avoir entendu dire, que les saints du désert avaient le pouvoir de plonger dans la terre entrouverte et fumante les impies qu'ils frappaient de leurs bâtons. Paphnus renvoya les femmes et avec elles les esclaves grecs qui leur ressemblaient et dit aux autres « Apportez du bois au milieu de la place. » Faites un grand feu et jetez-y pêle-mêle tout ce que contient la maison et la grotte. » Surpris, ils demeuraient immobiles et consultaient leur maîtresse du regard. Et comme elle restait inerte et silencieuse, ils se pressaient les uns contre les autres en tas, coude à coude, doutant si ce n'était pas une plaisanterie. « Obéissez !» dit le moine. Plusieurs étaient chrétiens. Comprenant l'ordre qui leur était donné, ils allèrent chercher dans la maison du bois et des torches. Les autres les imitèrent sans déplaisir, car, étant pauvres, ils détestaient les richesses et avaient d'instinct le goût de la destruction. Comme déjà ils élevaient le bûcher, Paphnus dit à Thaïs, j'ai songé un instant à appeler le trésorier de quelque église d'Alexandrie, si tant est qu'il reste une seule digne encore du nom d'église et non souillée par les bêtes ariennes, et à lui donner tes biens, femme, pour les distribuer aux veuves et changer ainsi le gain du crime en trésor de justice. Mais cette pensée ne venait pas de Dieu, et je l'ai repoussée, et certes, ce serait trop grièvement offenser les bien-aimés de Jésus-Christ que de leur offrir les dépouilles de la luxure. Thaïs, tout ce que tu as touché doit être dévoré par le feu jusqu'à l'âme. Grâce au ciel, ces tuniques, ces voiles qui virent des baisers plus innombrables que les rides de la mer, ne sentiront plus que les lèvres et les langues des flammes. Esclaves, hâtez-vous ! Encore du bois ! Encore des flambeaux et des torches ! Et toi, femme, rentre dans ta maison, dépouille tes infâmes parures, et va demander à la plus humble de tes esclaves, comme une faveur insigne, la tunique qu'elle revêt pour nettoyer les planchers. Thaïs obéit. Tandis que les Indiens agenouillés soufflaient sur les tisons, les nègres jetaient dans le bûcher des coffres d'ivoire ou d'ébène ou de cèdre qui, s'entr'ouvrant, laissaient couler des couronnes, des guirlandes et des colliers. La fumée montait en colonnes sombres comme dans les holocaustes agréables de l'ancienne loi. Puis le feu qui couvait, éclatant tout à coup, fit entendre un ronflement de bêtes monstrueuses et des flammes presque invisibles commencèrent à dévorer leurs précieux aliments. Alors les serviteurs s'enhardirent à l'ouvrage. Ils traînaient allègrement les riches tapis, les voiles brodées d'or, les teintures fleuries. Ils bondissaient sous le poids des tables, des fauteuils, des coussins épais, des lits aux chevilles d'or. Trois robustes égyptiopiens accoururent, tenant embrassées ces statues colorées des nymphes, dont l'une avait été aimée comme une mortelle. Et l'on eût dit des grands singes, ravisseurs de femmes. Et quand, tombant des bras de ces monstres, les belles formes nues se brisèrent sur les dalles, on entendit un gémissement. À ce moment, Thaïs parut, ses cheveux dénoués coulant à longs flots, nu-pieds et vêtus d'une tunique informe et grossière, qui, pour avoir seulement touché son corps, s'imprégnait d'une volupté divine. Derrière elle s'envolait un jardinier, portant, noyé dans sa barbe flottante, un héros d'ivoire. Elle fit signe à l'homme de s'arrêter, et s'approchant de Paphnus, elle lui montra le petit dieu. « Mon père, demanda-t-elle, faut-il aussi le jeter dans les flammes? Il est d'un travail antique et merveilleux, et il vaut 100 fois son poids d'or. Sa perte serait irréparable, car il n'y aura plus jamais au monde un artiste capable de faire un si bel héros. Considère aussi, mon père, que ce petit enfant est l'amour et qu'il ne faut pas le traiter cruellement. Crois-moi, l'amour est une vertu. Et si j'ai péché, ce n'est pas par lui, mon père, c'est contre lui. Jamais je ne regretterai ce qu'il m'a fait faire, et je pleure seulement ce que j'ai fait malgré sa défense. Il ne permet pas aux femmes de se donner à ceux qui ne viennent point en son nom. C'est pour cela qu'on doit l'honorer. Vois, Paphnus, comme ce petit héros est joli, comme il se cache avec grâce dans la barbe de ce jardinier. Un jour, Nicias, qui m'aimait alors, me l'apporta en me disant « Il te parlera de moi. » Mais l'espiègle me parla d'un jeune homme que j'avais connu à Antioche et ne me parla pas de Nicias. Assez de richesses ont péri sur ce bûcher, mon père. Conserve cet héros et place-le dans quelque monastère. Ceux qui le verront tourneront leur cœur vers Dieu, car l'amour s'est naturellement élevé aux célestes pensées. Le jardinier, croyant déjà le petit héros sauvé, lui souriait comme à un enfant. Quand Paphnus, arrachant le dieu des bras qui le tenaient, le lança dans les flammes en s'écriant « Mais il suffit que Nicias l'ait touché pour qu'il répande tous les poisons. » Puis, saisissant lui-même à pleine main les robes étincelantes, les manteaux de pourpre, les sandales d'or, les peignes, les strigiles, les miroirs, les lampes, les théorbes et les lyres, il les jetait dans ce brasier plus somptueux que le bûcher de Sardanapale, pendant que, ivre de la joie de détruire, des esclaves dansaient en poussant des hurlements sous une pluie de cendres et d'étincelles. Un à un, les voisins, réveillés par le bruit, ouvraient leurs fenêtres et cherchaient en se frottant les yeux d'où venait tant de fumée. Puis ils descendaient à demi vêtus sur la place et s'approchaient du bûcher. « Mais qu'est-ce là ? » pensaient-ils. Il y avait parmi eux des marchands auxquels Thaïs avait coutume d'acheter des parfums ou des étoffes, et ceux-là, tout inquiets, allongeant leur tête jaune et sèche, cherchaient à comprendre. Des jeunes débauchés qui, revenant de souper, passaient par là, précédés de leurs esclaves, s'arrêtaient, le front couronné de fleurs, la tunique flottante, et poussaient de grands cris. Cette foule de curieux, sans cesse accrue, sut bientôt que Thaïs, sous l'inspiration de l'abbé d'Antinoé, brûlait ses richesses avant de se retirer dans un monastère. Les marchands songeaient. Thaïs quitte cette ville, nous ne lui vendrons plus rien. C'est une chose affreuse à penser. Que deviendrons-nous sans elle? Ce bois lui fait perdre la raison. Il nous ruine. Pourquoi le laisse-t-on faire? À quoi servent les lois? Il n'y a donc plus de magistrats à Alexandrie. Cette Thaïs n'a souci ni de nous, ni de nos femmes, ni de nos pauvres enfants. Sa conduite est un scandale public. Il faut la contraindre à rester, malgré elle, dans cette ville. Mais les jeunes gens songeaient de leur côté. Si Thaïs renonce au jeu et à l'amour, c'en est fait de nos plus chers amusements. Elle était la gloire délicieuse, le doux honneur du théâtre. Elle faisait la joie de ceux même qui ne la possédaient pas. Les femmes qu'on aimait, on les aimait en elle. Il ne se donnait pas de baisers dont elle fut tout à fait absente, car elle était la volupté des voluptés, et la seule pensée qu'elle respirait parmi nous nous excitait au plaisir. Ainsi pensaient les jeunes hommes, et l'un d'eux, nommé Céronce, qu'il avait tenu dans ses bras, criait au rapt et blasphémait le dieu Christ. Dans tous les groupes, la conduite de Thaïs était sévèrement jugée. C'est une fuite honteuse, un lâche abandon. Elle nous retire le pain de la bouche, elle emporte la dot de nos filles. Oh, il faudra bien au moins qu'elle paye les couronnes que je lui ai vendues. Et les 60 robes qu'elle m'a commandées. Elle doit à tout le monde. Mais qui représentera après elle Iphigénie, Électre et Polyxène? Le beau Polybe lui-même n'y réussira pas comme elle. Il sera triste de vivre quand sa porte sera close. Elle était la claire étoile, la douce lune du ciel alexandrin. Les mendiants les plus célèbres de la ville, aveugles, cul-de-jatte et paralytiques, étaient maintenant rassemblés sur la place. Et, se traînant dans l'ombre des riches, ils gémissaient. Mais comment vivrons-nous quand Thaïs ne sera plus là pour nous nourrir? Les miettes de sa table rassasiaient tous les jours 200 malheureux et ses amants qui la quittaient satisfaits, nous jetait en passant des poignées de pièces d'argent. Des voleurs répandus dans la foule poussaient des clameurs assourdissantes et bousculaient leurs voisins afin d'augmenter le désordre et d'en profiter pour dérober quelque objet précieux. Seul le vieux Tradé, qui vendait la laine de Milet et le lin de Tarente, et à qui Thaïs devait une grosse somme d'argent, restait calme et silencieux au milieu du tumulte. L'oreille tendue et le regard oblique, il caressait sa barbe de bouc et semblait pensif. Enfin, s'étant approché du jeune Céronce, Il le tira par la manche et lui dit tout bas: « Toi, le préféré de Thaïs, beau seigneur, montre-toi, et ne souffre pas qu'un moine te l'enlève. » Par Pollux et sa sœur, il ne le fera pas, s'écria Séance. Je vais parler à Thaïs et, sans me flatter, je pense qu'elle m'écoutera un peu mieux que ce lapide barbouillé de suie. Place, place, canaille! Et frappant du poing les hommes, renversant les vieilles femmes, foulant aux pieds les petits enfants, il parvint jusqu'à Thaïs et la tirant à part. « Belle fille, lui dit-il, regarde-moi, souviens-toi, et dis si vraiment tu renonces à l'amour. Mais Paphnutius, se jetant entre Thaïs et Séance, « Impie !» s'écria-t-il, « crains de mourir si tu touches à celle-ci. Elle est sacrée, elle est la part de Dieu. »« Va-t'en, cynocéphale !» répliqua le jeune homme furieux. Laisse-moi parler à mon ami, sinon je traînerai par la barbe ta carcasse obscène, jusque dans ce feu où je te grillerai comme une andouille. » Et il étendit la main sur Thaïs. Mais repoussé par le moine avec une raideur inattendue, il chancela et alla tomber à quatre pas en arrière au pied du bûcher, dans les tisons écroulés. Cependant, le vieux Thaddée allait de l'un à l'autre, tirant l'oreille aux esclaves et baisant la main au maître, excitant chacun contre Paphnutius, et déjà il avait formé une petite troupe qui marchait résolument sur le moine ravisseur. Séron se releva, le visage noirci, les cheveux brûlés, suffoqués de fumée et de rage. Il blasphéma les dieux et se jeta parmi les assaillants, derrière lesquels les mendiants rampaient en agitant leurs béquilles. Paphnutius fut bientôt enfermé dans un cercle de poings tendus, de bâtons levés et de cris de mort. « Au gibet, le moine, au gibet !»« Non, non, jetez-les dans le feu, criez-le tout vif !» Ayant saisi sa belle proie, Paphnutius la serrait sur son cœur. « Impie !» criait-il d'une voix tonnante. « N'essayez pas d'arracher la colombe à l'aigle du Seigneur, mais plutôt imitez cette femme, et comme elle, changez votre fange en or. Renoncez sur son exemple au faux bien que vous croyez posséder et qui vous possède. Hâtez-vous, les jours sont proches et la patience divine commence à se lasser. Repentez-vous, confessez votre honte, pleurez et priez. Marchez sur les pas de Thaïs, détestez vos crimes qui sont aussi grands que les siens. Qui de vous, pauvres ou riches, marchands, soldats, esclaves, illustres citoyens, oserait se dire devant Dieu meilleur qu'une prostituée? Vous n'êtes tous que de vivantes immondices, et c'est par un miracle de la bonté céleste que vous ne vous répandez pas soudain en ruisseau de boue. » Tandis qu'il parlait, des flammes jaillissaient de ses prunelles. Il semblait que les charbons ardents sortissent de ses lèvres, et ceux qui l'entouraient l'écoutaient malgré eux. Mais le vieux Thaddée ne restait point oisif. Il ramassait des pierres et des écailles d'huîtres qu'il cachait dans un pan de sa tunique, et n'osant les jeter lui-même, il les glissait dans la main des mendiants. Bientôt, les cailloux volèrent et une coquille adroitement lancée fendit le front de Paphnutius. Le sang qui coulait sur cette sombre face de martyr dégouttait pour un nouveau baptême sur la tête de la pénitente, et Thaïs, oppressé par l'étreinte du moine, sa chair délicate froissée contre le rude cilice, sentait courir en elle les frissons de l'horreur et de la volupté. À ce moment, un homme élégamment vêtu, le front couronné d'haches, souffrant un chemin au milieu des furieux, s'écria « Arrêtez, arrêtez! Ce moine est mon frère !» C'était Nicias, qui venant de fermer les yeux au philosophe Eucrite, et qui, passant sur cette place pour regagner sa maison, avait vu sans trop de surprise, car il ne s'étonnait de rien, le bûcher fumant, Thaïs vêtu de bure, et Paphnus lapidé. Il répétait « Arrêtez-vous, dis-je, arrêtez, épargnez mon vieux condisciple, respectez la chère tête de Paphnus. » Mais, habitué aux subtils entretiens des sages, il n'avait point l'impérieuse énergie qui soumet les esprits populaires. On ne l'écouta point. Une grêle de cailloux et d'écailles tombait sur le moine, qui, couvrant Thaïs de son corps, louait le Seigneur dont la bonté lui changeait les blessures en caresses. Désespérant de se faire entendre et trop assuré de ne pouvoir sauver son ami, soit par la force, soit par la persuasion, Nicias se résignait déjà à laisser faire au Dieu, en qui il avait peu de confiance, quand il lui vint en tête d'user d'un stratagème que son mépris des hommes lui avait tout à coup suggéré. Il détacha de sa ceinture sa bourse qui se trouvait gonflée d'or et d'argent, étant celle d'un homme voluptueux et charitable. Puis il courut à tous ceux qui jetaient des pierres et fit sonner les pièces à leur oreille. Oh, ils n'y prirent point garde d'abord, tant leur fureur était vive. Mais peu à peu, leurs regards se tournèrent vers l'or qui tintait, et bientôt leurs bras amollis ne menacèrent plus leurs victimes. Voyant qu'il avait attiré leurs yeux et leur âme, Nicias ouvrit la bourse et se mit à jeter dans la foule quelques pièces d'or et d'argent. Les plus avides se baissèrent pour les ramasser. Le philosophe, heureux de ce premier succès, lança adroitement ça et là les deniers et les drachmes. Au son des pièces de métal qui rebondissaient sur le pavé, la troupe des persécuteurs se rua à terre. Mendiants, esclaves et marchands se vautraient à l'envi, tandis que groupés autour de ces ronces, les patriciens regardaient ce spectacle en éclatant de rire. Céros lui-même y perdit sa colère. Ses amis encourageaient les rivaux prosternés, choisissaient des champions et faisaient des paris. Et quand naissaient des disputes, ils excitaient ces misérables comme on fait des chiens qui se battent. Un cul de jatte ayant réussi à saisir un drachme, des acclamations s'élevèrent jusqu'au dû. Les jeunes hommes se mirent eux-mêmes à jeter des pièces de monnaie, et l'on ne vit plus sur toute la place qu'une infinité de dos qui, sous une pluie d'airain, s'entrechoquaient comme les lames d'une mer démontée. Paphnus était oublié. Nicias courut à lui, le couvrit de son manteau et l'entraîna avec Thaïs dans des ruelles où ils ne furent pas poursuivis. Ils coururent quelque temps en silence, puis, se jugeant hors d'atteinte, ils ralentirent le pas, et Nicias dit d'un ton de raillerie un peu triste « C'est donc fait. Pluton ravit Proserpine, et Thaïs veut suivre loin de nous, mon farouche ami. » « Il est vrai, Nicias, répondit Thaïs. Je suis fatigué de vivre avec des hommes comme toi, souriants, parfumés, bienveillants, égoïstes. Je suis las de tout ce que je connais, et je vais chercher l'inconnu. J'ai éprouvé que la joie n'était pas la joie, et voici que cet homme m'enseigne quand la douleur est la véritable joie. Je le crois, car il possède la vérité. Et moi, ma mie, reprit Nicias en soupirant et en souriant, je possède les vérités. Il n'y en a qu'une, je les ai toutes. Je suis plus riche que lui et n'en suis, à vrai dire, ni plus fier ni plus heureux. Et voyant que le moine lui jetait des regards flamboyants, « Cher Paphnus, ne crois pas que je te trouve extrêmement ridicule, ni même tout à fait déraisonnable. Mais si je compare ma vie à la tienne, je ne saurais dire laquelle est préférable en soi. Je vais tout à l'heure prendre le bain que Crobyle et Myrtale m'auront préparé. Je mangerai l'aile d'un faisan du Phase. Puis je lirai pour la centième fois quelque fable milésienne ou quelque traité de Métrodore. Toi, tu regagneras ta cellule où, t'agenouillant, comme une chameau docile, tu rumineras, ou je ne sais quelle formule d'incantation, depuis longtemps mâchée et remâchée, et le soir, tu avaleras des raves sans huile. Eh bien, très cher, en accomplissant ces actes, dissemblables quant aux apparences, nous obéirons tous deux au même sentiment, seul mobile de toutes les actions humaines. Nous rechercherons tous deux notre volupté et nous nous proposerons une fin commune, le bonheur, l'impossible bonheur. J'aurai donc mauvaise grâce à te donner tort, chère tête, si je me donne raison. Mais toi, ma Thaïs, va et réjouis-toi. Sois plus heureuse encore, s'il est possible, dans l'abstinence et dans l'austérité que tu l'as été dans la richesse et dans le plaisir. À tout prendre, je te programme digne d'envie. Car si dans toute notre existence, obéissant à notre nature, nous n'avons pas, Phnus et moi, poursuivi qu'une seule espèce de satisfaction, tu auras goûté dans la vie, chère Thaïs, des voluptés contraires qu'il est rarement donné à la même personne de connaître. En vérité, je voudrais être pour une heure un saint de l'espèce de notre cher Paphnus. Mais cela ne m'est point permis. Adieu donc, Thaïs. Va où te conduisent les puissances secrètes de ta nature et de ta destinée. Va et emporte au loin les vœux de Nicias. J'en sais l'inanité, mais puis-je te donner mieux que des regrets stériles et de vains souhaits pour prix des illusions délicieuses qui m'enveloppaient jadis dans tes bras et dont il me reste l'ombre. Adieu, ma bienfaitrice. Adieu, bonté qui s'ignore, vertu mystérieuse, volupté des hommes. Adieu, la plus adorable des images que la nature ait jamais jetée, pour une fin inconnue, sur la face de ce monde décevant. Tandis qu'il parlait, une sombre colère couvait dans le cœur du moine. Elle éclata en imprécations. « Va-t'en, maudit. Je te méprise et je te hais. Va-t'en, fils de l'enfer, mille fois plus méchant que ces pauvres égarés qui tout à l'heure me jetaient des pierres avec des injures. Il ne savait pas ce qu'il faisait, et la grâce de Dieu, que j'implore pour eux, peut un jour descendre dans leur cœur. Mais toi, détestable Nicias, tu n'es que venin perfide et poison acerbe. Le souffle de ta bouche exhale le désespoir et la mort. Un seul de tes sourires contient plus de blasphème qu'il n'en sort en tout un siècle des lèvres fumantes de Satan. Arrière, réprouvé. Nicias le regardait avec tendresse. Adieu, mon frère, lui dit-il, et puisses-tu conserver jusqu'à l'évanouissement final les trésors de ta foi, de ta haine et de ton amour. Adieu, Thaïs, en vain tu m'oublieras puisque je garde ton souvenir. En les quittant, il s'en alla pensif par les rues tortueuses qui avoisinent la grande nécropole d'Alexandrie et qu'habitent les potiers funèbres. Leur boutique était pleine de ces figurines d'argile, peintes de couleurs claires, qui représentent des dieux et des déesses, des mimes, des femmes, de petits génies ailés et qu'on a coutume d'ensevelir avec les morts. Il songea que peut-être quelques-uns de ces légers simulacres qu'il voyait là de ses yeux seraient les compagnons de son sommeil éternel. Et il lui sembla qu'un petit Eros, sa tunique retroussée, riait d'un rire moqueur. L'idée de ces funérailles qu'il voyait par avance lui était pénible. Pour remédier à sa tristesse, il essaya de la philosophie et construisit un raisonnement. Certes, se dit-il, le temps n'a point de réalité, c'est une pure illusion de notre esprit. Or, comment, s'il n'existe pas, pourrait-il m'apporter ma mort? Est-ce à dire que je vivrai éternellement? Non, mais j'en conclus que ma mort est fut toujours autant qu'elle sera jamais. Je ne la sens pas encore, pourtant elle est, et je ne dois pas la craindre, car ce serait folie de redouter la venue de ce qui est arrivé. Elle existe comme la dernière page d'un livre que je lis et que je n'ai pas fini. Et ce raisonnement l'occupa sans l'égayer tout le long de sa route. Il avait l'âme noire. Quand, arrivé au seuil de sa maison, il entendit les rires clairs de Crobyle et de Myrtal qui jouaient à la paume en l'attendant. Paphnus et Thaïs sortirent de la ville par la porte de la lune et suivirent le rivage de la mer. Femme, disait le moine, toute cette grande mer bleue ne pourrait laver tes souillures. Il lui parlait avec colère et mépris. Plus immonde que les lys et les laits, tu as prostitué aux païens et aux infidèles un corps que l'Éternel avait fermé pour s'en faire un tabernacle, et tes impuretés sont telles que maintenant que tu sais la vérité, tu ne peux plus unir tes lèvres ou joindre les mains sans que le dégoût de toi-même ne te soulève le cœur. Elle le suivait docilement par d'âpres chemins sous l'ardent soleil. La fatigue rompait ses genoux et la soif enflammait son haleine. Mais, loin d'éprouver cette fausse pitié qui amollit les cœurs profanes, Paphnus se réjouissait des souffrances expiatrices de cette chair qui avait péché. Dans le transport d'un saint zèle, il aurait voulu déchirer de verges ce corps qui gardait sa beauté comme un témoignage éclatant de son infamie. Ses méditations entretenaient sa pieuse fureur, et se rappelant que Thaïs avait reçu Nicias dans son lit, il en forma une idée si abominable que tout son sang reflua vers son cœur et que sa poitrine fut près de se rompre. Ses anathèmes étouffés dans sa gorge firent place à des grincements de dents. Il bondit, se dressa devant elle, pâle, terrible, plein de Dieu, la regarda jusqu'à l'âme et lui cracha au visage. Tranquille, elle s'essuya la face sans cesser de marcher. Maintenant, il la suivait, attachant sur elle sa vue comme sur un abîme. Il allait, saintement irrité. Il méditait de venger le Christ, afin que le Christ ne se vengeât pas. Quand il vit une goutte de sang qui, du pied de Thaïs, coula sur le sable. Alors il sentit la fraîcheur d'un souffle inconnu entrer dans son cœur ouvert, et des sanglots lui montèrent abondamment aux lèvres. Il pleura. Il courut se prosterner devant elle. Il l'appela sa sœur. Il baisa ses pieds qui saignaient. Et il murmura 100 fois « Ma sœur, ma sœur, ma mère, ô très sainte !» Il pria. Ange du ciel, recueillez précieusement cette goutte de sang et portez-la devant le trône du Seigneur. Et qu'une anémone miraculeuse fleurisse sur le sable arrosé par le sang de Thaïs, afin que tous ceux qui verront cette fleur recouvrent la pureté du cœur et des sens. Ô sainte, sainte, très sainte Thaïs! Comme il priait et prophétisait ainsi, un jeune garçon vint à passer sur un âne. Paphnus lui ordonna de descendre, fit asseoir Thaïs sur l'âne, prit la bride et suivit le chemin commencé. Vers le soir, ayant rencontré un canal ombragé de beaux arbres, il attacha l'âne au tronc d'un dattier, et s'asseyant sur une pierre moussue, il rompit avec Thaïs un pain qu'ils mangèrent, assaisonné de sel et d'hysope. Ils buvaient l'eau fraîche dans le creux de leurs mains et s'entretenaient de choses éternelles. Elle disait « Oh, je n'ai jamais bu d'une eau si pure, ni respiré un air si léger. » Et je sens que Dieu flotte dans les souffles qui passent. » Paphnus répondait, « Vois, c'est le soir, ô ma sœur, les ombres bleues de la nuit couvrent les collines. Mais bientôt tu verras briller dans l'aurore les tabernacles de vie. Bientôt tu verras s'allumer les roses de l'éternel matin. » Ils marchèrent toute la nuit, et tandis que le croissant de la lune effleurait la cime argentée des flots, ils chantaient des psaumes et des cantiques. Quand le soleil se leva, le désert s'étendait devant eux comme une immense peau de lion sur la terre libyque. À la lisière du sable, des cellules blanches s'élevaient près des palmiers dans l'aurore. « Mon père, demanda Thaïs, sont-ce là les tabernacles de vie ?»« Tu l'as dit, ma fille et ma sœur, c'est la maison du salut où je t'enfermerai de mes mains. » Bientôt, ils découvrirent de toutes parts des femmes qui s'empressaient près des demeures ascétiques comme des abeilles autour des ruches. Il y en avait qui cuisaient le pain ou qui apprêtaient les légumes. Plusieurs filaient la laine, et la lumière du ciel descendait sur elles ainsi qu'un sourire de Dieu. D'autres méditaient à l'ombre des tamaris. Leurs mains blanches pendaient à leur côté, car, étant pleines d'amour, elles avaient choisi la part de Madeleine, et elle n'accomplissait pas d'autres œuvres que la prière, la contemplation et l'extase. C'est pourquoi on les nommait les Maries, et elles étaient vêtues de blanc. et celles qui travaillaient de leurs mains étaient appelées les Martes et portaient des robes bleues. Toutes étaient voilées, mais les plus jeunes laissaient glisser sur leur front des boucles de cheveux. Et il faut croire que c'était malgré elles, car la règle ne le permettait pas. Une dame très vieille, grande, blanche, allait de cellule en cellule, appuyée sur un sceptre de bois dur. Paphnus s'approcha d'elle avec respect, lui baisa le bord de son voile et dit « La paix du Seigneur soit avec toi, vénérable Albine. J'apporte à la ruche dont tu es la reine une abeille que j'ai trouvée perdue sur un chemin sans fleurs. Je l'ai prise dans le creux de ma main et réchauffée de mon souffle. Je te la donne. » Et il lui désigna du doigt la comédienne qui s'agenouilla devant la fille des Césars. Albine arrêta un moment sur Thaïs son regard perçant, lui ordonna de se relever, la baisa au front, puis se tournant vers le moine, « Nous la placerons, dit-elle, parmi les maris. » Paphnus lui conta alors par quelle voie Thaïs avait été conduite à la maison du salut, et il demanda qu'elle fût d'abord enfermée dans une cellule. L'abbesse y consentit. Elle conduisit la pénitente dans une cabane restée vide depuis la mort de la Vierge Laëta, qui l'avait sanctifiée. Il n'y avait dans l'étroite chambre qu'un lit, une table et une cruche, et Thaïs, quand elle posa le pied sur le seuil, fut pénétrée d'une joie infinie. « Je veux moi-même clore la porte, dit Phanus, et poser le sceau que Jésus viendra rompre de ses mains. » Il alla prendre au bord de la fontaine une poignée d'argile humide, imita un de ses cheveux avec un peu de salive et l'appliqua sur une des fentes de lui. Puis, s'étant approché de la fenêtre près de laquelle Thaïs se tenait paisible et contente, il tomba à genoux, loua par trois fois le Seigneur et s'écria « Quelle est aimable celle qui marche dans les sentiers de vie ! Que ses pieds sont beaux et que son visage est resplendissant. » Il se leva, baissa sa cucule sur ses pieds et s'éloigna lentement. Albine appela une de ses vierges. « Ma fille, lui dit-elle, va porter à Thaïs ce qui lui est nécessaire, du pain, de l'eau et une flûte à trois trous. »